Mosaïque, puisqu'il faut tout pour faire un monde. Présenté par Reski Lando et David Buchinger. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin, merci à nos auditeurs, merci à nos intervenants. Bonjour Gil, bonjour David.
Bonjour Reski.
Bonjour Reski.
Bonjour. Alors, on est sur Radio Judaïka, une radio qui est juive et française à la fois. Et c'est deux composantes d'une identité qui ne sont pas forcément toujours évidentes à emboîter. On a tous les trois grandi à Strasbourg, donc en Alsace, un cadre qui a la réputation de permettre une expression plus libre, en fait, de ses croyances religieuses et de les combiner avec une vie assez standard par ailleurs. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en discute ensemble parce qu'on est tous les trois passés par la case études, en fait, à Strasbourg. Et je pense qu'on a tous les trois eu des ressentis, des points de vue un peu différents sur comment est-ce qu'on peut combiner ces deux choses. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, par exemple, affirmer une identité juive tout en évoluant dans un cadre français, en faisant des choses qui sont très typées à ce niveau-là. Personnellement, mon point de vue, effectivement, il irait vers quelque chose d'un peu nuancé, le fait qu'on aurait autant d'expériences positives que négatives, mais que les deux sont enrichissantes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Gil, par exemple?
Ouais, c'est effectivement le cas. Il faut quand même noter que notre judaïté, qui, quand bien même on fait tout pour l'emboîter avec notre nationalité, français, fiers tous les trois plus ou moins d'être français,
plus ou moins.
Que moins. Néanmoins, ça reste à emboîter, pas tant pour nous qui vivons relativement bien l'ambiguïté de la chose, mais plutôt pour les gens à l'extérieur. Ça veut dire que régulièrement, que ce soit à la faculté ou dans la rue, on peut discuter, alors de manière plus ou moins posée selon l'interlocuteur, de comment est-ce qu'on vit ça ? Qu'est-ce qu'on pense ? Alors typiquement, pour parler d'un sujet tout à fait d'actualité, typiquement en tant que Français ou en tant que Juif, Gil, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement à Gaza ? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe depuis 70 ans à Gaza ? Qu'est-ce que tu penses des arnaques qui peuvent avoir lieu de temps en temps en France quand on entend certains grands non-Juifs qui sonnent Juifs revenir sur le devant de la scène ? Comme si on était un peu responsable de cette chose-là, comme si on devait porter cette chose-là. Je ne crois pas que ce soit forcément le cas. Ça veut dire que je ne dirais pas qu'avant d'être français, je suis juif. Je ne dirais pas non plus, surtout pas l'inverse non plus. Je dirais que c'est vraiment deux choses qui vivent côte à côte et je n'ai pas à justifier les actes ni des uns ni des autres.
David, une réaction à tout ça ?
Bah absolument. Il évoque justement la présence du juif face à l'autre, donc face à son semblable. Et forcément, la pratique s'exprime souvent par le port de certains signes. On connaît par exemple le port de la kippa, et vous évoquez l'université. On a tous, à un moment ou à un autre, quand on est entré dans le cursus universitaire, vraiment dans le grand bain, on a fait le choix de porter, de continuer à porter, oui ou non, la kippa qui nous rend particulièrement identifiables. Ce qui s'accompagne de ça, et Guy le citait déjà un petit peu, c'est-à-dire que quand on porte ce signe, donc on se revendique en tant que juif, pour des raisons qui peuvent être assez diverses, on a effectivement pas directement une responsabilité, mais on a un certain devoir. Les textes juifs identifient quand même un élément qui est très important, qui est nommé Chilul Hashem en hébreu, la profanation du nom de Dieu qui vient en symétrie par rapport à la sanctification du nom de Dieu. Et donc la personne qui s'affiche comme étant membre d'une certaine pratique, d'une certaine tradition religieuse, il a un devoir d'exemplarité. Donc porter un couvre-chef, ça donne malgré tout un certain devoir, au moins moral, à la personne qui le porte, d'exemplarité.
Merci beaucoup à vous deux, c'est deux points de vue très intéressants, mais justement, avec ce que vient de dire David, Gil, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu dis que tu ne te sens pas forcément l'obligation d'être associé à tout ce qui se passe au niveau de la communauté, du judaïsme, et peut-être d'Israël aussi plus spécifiquement. Mais est-ce que tu peux entendre ce que David vient de dire ? Le fait que nous trois, en ayant fait nos études, on a choisi, la plupart du temps du moins, de s'afficher en fait concrètement en tant que juif, en portant un signe distinctif religieux, est-ce qu'on ne sait pas coller une étiquette de représentant concrètement ? Et que ce n'est pas un rôle qu'on doit assumer d'une certaine façon ?
Alors, oui et non, ça veut dire que déjà sur la question du Chilul Hashem, alors si on fait attention à nos textes vont plutôt dire que le Chilul Hashem se caractérise par la profanation du nom, donc la profanation du divin, on va dire, en présence d'autres juifs, de nos co-religionnaires. C'est surtout à ce niveau-là que le Chilul Hashem s'exprime. Par contre, je le rejoins sur la question de l'exemplarité, mais l'exemplarité, elle est propre, ça veut dire qu'elle est vis-à-vis de mes actes. Qu'est-ce que moi je vais faire ? Alors, ça peut être tout à fait anodin, comme, je sais pas, ne pas cracher dans la rue en présence d'autres personnes pour rester plus ou moins digne à ce niveau-là. Ça peut être sur des actes beaucoup plus profonds, beaucoup plus pertinents. Bah, à titre personnel, je travaille à la faculté de chirurgie dentaire.
C'est surprenant.
Très surprenant. si je me mets à avoir une attitude tout à fait désinvolte vis-à-vis à l'égard de mes professeurs, à l'égard de mes responsables, même à l'égard de mes collègues, alors rapidement, je peux être caractérisé, ça peut créer une caractérisation comme les juifs, ils sont insupportables, etc., qui sont des choses qu'on a déjà pu entendre.
Mais justement, tu me connais, on a aussi évolué, pas dans les mêmes filières, mais on s'est côtoyé dans le cadre étudiant plusieurs fois. Moi, j'ai globalement, je suis l'école de pensée qui dit qu'il faut ne pas avoir peur de s'affirmer, porter la kippa au maximum. Mais tu m'as déjà vu dans le cadre associatif, notamment sur des questions qui avaient trait aux politiques. J'ai toujours eu pour principe à ce moment-là de l'enlever. Mais pourquoi ? Parce que comme tu le dis, il y a cette notion de représentation, et je pense que spécialement quand je vais exprimer un point de vue, quand je vais dire quelque chose d'important, plus que tout simplement une attitude en fait. Ça veut dire quand je vais prendre position sur un sujet de société, j'étais très perturbé par l'idée que mon avis personnel sur des questions politiques pouvait en fait donner lieu à une représentativité de la communauté. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que, ça, on va sûrement le traiter après, il y a quand même ce fait qu'on doit prendre en compte que, peu importe qu'on le veuille ou non, peu importe qu'on s'estime lié ou pas à certaines choses, quand on s'affirme en tant que juif, très souvent, du point de vue extérieur, on est un représentant de sa communauté. Typiquement, le fait d'avoir commencé à enlever ma kippa dans certains cadres où je parlais de politique, etc., c'est parce que je l'ai constaté, en ayant des échanges avec des gens, que quand je parlais, beaucoup de gens disaient « Oui, d'accord, alors c'est le point de vue juif sur la chose, tu vois. » Ça veut dire que je pense que c'est pas qu'une question d'attitude. On ne choisit pas forcément sa fonction de représentant. Et là-dessus, peut-être que David a quelque chose à dire, puisque lui-même, il a pas mal aussi évolué à mes côtés dans des cadres, disons, de politique et de vie publique. Est-ce que, mais je pense justement, qu'on n'a peut-être pas eu les mêmes positions. Tu as été plus réticent à l'enlever que moi dans certains cas, sur ces questions-là.
Absolument. Faire le choix de l'enlever ou non lors de certains événements, c'est le marqueur, effectivement, de la volonté parfois de vouloir se détacher un petit peu, pouvoir se permettre d'exprimer un avis qui est strictement personnel et se détacher d'un ensemble. Vouloir la porter absolument, c'est, qu'on le veuille ou non, vraiment quelque chose qui sort finalement de l'habituel, et c'est une volonté de se marquer, d'exprimer une différence, malgré tout. Et ça justifie que ça puisse évoquer au moins la curiosité ou l'attention de l'interlocuteur en face, ce qui peut mener à différents types de réactions. On a malheureusement en tête, avec les périodes qu'on vit actuellement, l'idée que le fait de porter la kippa, ça peut mener à des agressions, à des attaques, etc., parce que c'est le marqueur du judaïsme qui est particulièrement ciblé malheureusement aujourd'hui. Mais je pense que c'est assez important de signifier, en tout cas, ce que j'ai pu constater dans mon expérience personnelle, que ça peut également déboucher à énormément d'expériences positives. Bien Alors sûr. Évidemment, porter la kippa dans la rue, ça peut être voilà, des gens qui passent en voiture, qui insultent, qui parlent mal, mais c'est aussi, je trouve, un marqueur qui permet de se différencier, donc il y a beaucoup plus de gens qui peuvent venir vers vous. Parfois, Guil l'évoquait en aparté tout à l'heure, des gens qui viennent simplement, qui lancent un shalom, pensant bien faire, simplement parfois un petit peu gênés dans la situation, on ne sait pas vraiment comment réagir, mais il y a énormément de gens qui sont curieux, et porter cette kippa, ça permet de se distinguer, de s'afficher en tant que juif, et c'est quand même malgré tout une certaine porte ouverte, malgré la volonté de différenciation, à l'autre, qui se semble être plus libre de venir poser ses questions, parce qu'il voit face à lui quelqu'un qui s'affiche, quelqu'un qui se vit, qui s'identifie en tant que juif.
Oui, j'entends tout à fait ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a cette idée que vous n'y êtes pas étranger, je co-dirige en fait un programme qui est à l'initiative de la Conférence des rabbins d'Europe qui s'appelle « Ambassadeur du judaïsme », cette idée qu'en fait, quand on s'affirme dans la religion, comme tu le dis, on doit un peu être une porte ouverte concrètement à toute question qu'on pourrait avoir. C'est également la porte ouverte à énormément d'interactions positives, voire même peut-être des interactions à la base hostile qu'on va pouvoir tempérer. Mais justement, on a beaucoup parlé du cadre des études. Toi, Guil, tu n'as pas été dans la même filière que nous. Nous, on a été dans des filières humanité, c'est-à-dire le droit, l'histoire, moi, aujourd'hui, relations internationales.
Les sciences molles face aux sciences dures de notre ami Guil.
C'est un autre débat. Toi, justement, donc, tu es dans les sciences dures, on va dire. Est-ce que tu penses que la question a été aussi préoccupante pour toi que pour nous, en fait, là où tu étais ?
La question, alors, aussi préoccupante, je ne saurais pas le caractériser comme ça. Par contre, elle était très différente. Ça veut dire que lorsque vous deux vous décrivez une porte ouverte à l'autre de manière relativement bienveillante, en tout cas de manière intéressée, c'est peut-être justement lié au cursus. Lorsqu'on est dans un cursus de droit pur comme David, ou lorsqu'on est dans un cursus mélangé de droit et d'histoire comme toi, Reski, alors on peut être plutôt amené à rencontrer des gens qui s'intéressent à la question, que ce soit d'un point de vue du droit, que ce soit d'un point de vue de l'histoire. D'un point de vue du droit, on peut se demander, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Est-ce qu'ils ont tort de le faire ? On peut s'interroger là-dessus. Il y a une vraie porte ouverte. Lorsqu'on est dans des sciences plus dures, pour citer David, en chirurgie dentaire, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question du quotidien, ce n'est pas du tout une question qui s'approche, ne serait-ce que des sphères de pensée de ce milieu-là. Donc l'action, elle ne se pose pas comme ça. Donc en général, j'ai des confrontations plus franches, plus tranchées par rapport à mes collègues, ce qui ne crée pas une animosité constante vis-à-vis de moi, pas du tout. Mais dès que la question est posée, il n'y a pas un débat, il n'y a pas un échange qui va s'instaurer là-dessus. Chacun va avoir ses positions et c'est assez fermé.
Parce que le cursus n'est pas le cadre, tu dis.
Parce que le cursus n'est pas le cadre. C'est pour ça que je n'ai pas du tout ce ressenti positif, on va dire, de cette porte ouverte à l'autre. Quand bien même, c'est le cas. Quand même, ça me ferait tout à fait plaisir de partager une discussion, que ce soit dans la rue, que ce soit à la faculté, que ce soit en clinique, etc. Ça ne pose pas un problème. Après, je suis peut-être aussi moins exposé, parce que quand bien même je porte systématiquement ma kippa, que ce soit dans mon cursus universitaire ou dans ma vie de tous les jours, en clinique, lorsque je suis... la plupart de mon temps en clinique, en train de prodiguer des soins, il y a interdiction de la porter, et je fais partie du service public, tous les signes religieux sont interdits, que ce soit le port de la kippa, ou le port du voile, ou le port de la croix. Et en tout cas, notre nouveau doyen est très strict là-dessus, donc, et a raison. Donc je suis moins confronté peut-être à des situations qui pourraient être tendues, notamment avec certains patients.
Mais alors c'est intéressant, parce que tu as mis le doigt sur quelque chose qui n'est pas assez évoqué, je trouve, c'est que dans des échanges, il peut y avoir de l'animosité, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et là, je rebondis un peu sur ce que David disait avant. Toi et moi, et Gil de son côté, dans les sciences dures, le fait de porter la kippa, le fait de s'affirmer comme juif, ça a souvent mené à des échanges parfois tendus. Mais je crois qu'on a pu voir, toi et moi, David, des fois où les choses commençaient très mal. Et en fait, le fait de s'être affirmé comme juif, de ne pas avoir essayé de se cacher, ça a ouvert à un dialogue très franc et très musclé. Mais cette animosité, finalement... elle a mené à des relations assez apaisées, en fait du vrai respect, parce qu'on a vraiment parlé, on s'est vraiment dit nos quatre vérités, sans toujours être d'accord à la fin d'ailleurs.
Absolument, la communauté juive aujourd'hui en France est infime hein, à l'échelle du pays, et donc les gens, le français moyen, ou le français random, n'a pas forcément l'occasion de croiser des juifs. Encore quand ça arrive, ils sont parfois pas identifiables, parfois ils le cachent, parfois ils le vivent pas forcément, donc ils ont pas forcément... cette identité-là qui est très présente. Et donc ça explique, cette incompréhension-là, cette méconnaissance du sujet, explique un petit peu cette animosité parfois. L'incompréhension, le flou, ça donne un petit peu ces réactions-là. Mais effectivement, parfois l'approche peut être un petit peu bourrue, on l'a évoqué tout à l'heure, les gens qui dans la rue, sous prétexte qu'on porte la kippa, viennent nous dire shalom ou viennent tenter d'entamer une conversation, c'est parfois très maladroit, mais c'est très souvent le début d'une longue discussion. Il y a des gens que j'ai rencontrés, voilà, en discutant des sujets bouillants, de l'actualité comme le Moyen-Orient, qui après coup sont devenus des très bons amis. Donc le départ n'est pas forcément, et j'invite tous les gens qui nous écoutent, qui pourraient être concernés par la question, voilà, enfin, porter la kippa, c'est pas forcément que la personne a du temps à accorder, mais tentez votre coup, en principe, personne ne vous en voudra.
Oui, d'ailleurs, je pense, comme tu parles d'approche bourrue, on peut tous avoir des anecdotes assez drôles sur le fait qu'on a été le premier ami juif de quelqu'un, qu'il a cherché à gérer la relation en pensant être très diplomate. Je parle pas du tout de ça à titre de malveillance ou de moquerie. Je trouve justement que ça met en valeur le devoir qu'on a peut-être d'expliquer aux gens qui on est. À titre personnel, je vais raconter une histoire. Ça concerne quelqu'un qui aujourd'hui est un très bon ami. Il s'est rendu compte que j'étais juif après, je pense, un ou deux mois qu'on se fréquentait à la fac. On se retrouve dans une situation où on est donc en after, après un événement associatif, et il commande une tarte flambée pour nous deux, avec des lardons. Et je le regarde, je lui dis « Bah non, du coup ». Il me répond « Quoi, mais c'est pas Shabbat, tu dois pas manger kasher aujourd'hui. » Vous voyez, il y a ce côté où justement, on revient à ce qu'on disait avant, qu'il y a des gens qui veulent avoir une approche bienveillante, etc. Et je pense justement que là, on arrive à un thème assez intéressant dont on va pouvoir parler. C'est qu'on a en même temps un peu cette responsabilité d'être affirmé. Je pense qu'on l'a évoqué, ça fait autant de bien à notre communauté de ne pas se cacher que ça peut donner des ouvertures aux gens sur des univers qu'ils ne connaissent pas. Mais après, il y a aussi le stade de l'insolence qu'on peut souvent nous reprocher. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est-à-dire l'insolence?
C'est-à-dire que souvent, quand on s'affirme, tu vois, on peut aussi être accusé d'en faire trop. Par exemple, il y a aussi des gens qui m'ont dit que je ne le vivais pas comme ça, mais le simple fait de s'afficher avec un signe religieux aux yeux de certaines personnes, c'est déjà être dans le prosélytisme et la revendication.
C'est quelque chose que j'entends, c'est quelque chose que je partage dans une certaine mesure. C'est l'une des raisons, indépendamment de l'aspect religieux, pour laquelle je porte la kippa systématiquement dans la rue, mais tu ne me verras jamais, jamais avec les tzitzites dehors. Donc avec
donc
pourquoi? Tout simplement parce que les tzitzites ne sont pas connus du grand public. Donc j'estime que les montrer, c'est leur donner une information inconnue, tout à fait inconnue, ils n'ont pas besoin. Ça veut dire que, et moi-même, je n'en ai pas spécialement besoin, je n'ai pas d'obligation vis-à-vis de ça, je trouve que c'est très envahissant. A contrario, la kippa, une petite kippa, généralement noire pour la plupart d'entre nous, assez discrète, ça ne prend pas de place dans l'espace public, ça ne me gêne pas, ça pourrait se... rencontrer un parallèle avec une petite croix discrète autour du cou, un petit croissant de lune autour du cou discrètement.
C'est intéressant. Tu dirais que toutes les expressions religieuses se valent concrètement ?
Non, justement pas. Que toutes les expressions religieuses ne se valent absolument pas. Il y a des expressions qui sont plus envahissantes que d'autres, hein, quelque chose de discret, relativement peu visible, auquel on doit prêter attention pour le voir, etc. Ça ne porte pas du tout la même valeur que quelque chose de blanc qui pend sur les côtés et qui va complètement trancher avec l'habit pour peu qu'on ait un jean noir ou un haut un peu foncé aussi. Donc justement, il y a la place tout d'abord de la religion chrétienne qui, à mon sens, peut s'exprimer comme elle veut dans l'espace public. Ensuite, il y a la place des religions autres, annexes, que ce soit l'islam ou le judaïsme, qui peuvent s'exprimer dans le débat public, qui peuvent s'exprimer dans l'espace public surtout, mais avec un peu de retenue quand même.
D'accord, David,
tu fais bien d'évoquer ça, Guil. Je pense que c'est justement là le point sur lequel on ne sera pas d'accord. Mais déjà, pour ce qui est de l'expression du fait religieux par le port de symboles et le lien avec le prosélytisme, c'est évidemment, ça touche le sujet de la laïcité en France, qui est un sujet énorme, souvent mal compris. Je prétends d'ailleurs pas l'avoir nécessairement compris.
Ça fait du droit quand même.
Absolument, la loi de 2004 donc, qui interdit le port de signes distinctifs religieux extérieurs vraiment visibles dans l'école, collège, lycée, c'est effectivement affiché pour éviter le prosélytisme, c'est-à-dire à un certain âge où c'est l'âge de l'apprentissage, où on se fréquente assez jeune, etc. Le législateur a fait le choix de considérer que ça pouvait être considéré comme du prosélytisme. Mais lorsqu'on atteint l'enseignement supérieur ou l'espace public, on n'a apparemment plus ce problème, en tout cas du point de vue du législateur. La loi n'est pas la morale, évidemment, on pourrait en discuter longuement, mais je pense d'un point de vue strictement vraiment juridique, toutes les religions sont autorisées à s'exprimer dans l'espace public, et ce serait un petit peu se mentir à soi-même que de vouloir se restreindre pour des considérations un petit peu historiques. C'est vrai qu'effectivement, le christianisme est historique en France, mais je vois mal comment on pourrait faire vraiment une hiérarchisation et autoriser l'un plus à s'exprimer, si c'est d'un point de vue moral qui ne peut nous concerner que soi-même. Pardon.
Tout à fait, on pourra pas faire le législateur ne pourra pas écrire, rédiger une loi faisant une distinction claire entre les trois, disons, religions, même s'il y en a beaucoup plus, sans faire un tollé et déclencher une vague de critiques.
Ce sera vraiment un problème d'égalité.
Très personnel, tout un chacun peut entendre cette différence, à mon avis, d'autant plus qu'on voit que l'exposition excessive d'une religion, quelle qu'elle soit, dans l'espace public, a tendance à gêner les concitoyens, que ce soit par des remarques, que ce soit par des regards, que ce soit par un vote, que ce soit... On a tendance à l'observer. Une fois qu'on observe que une grande proportion des gens sont gênés par l'exposition excessive, on va dire, d'un signe religieux dans la rue, tout un chacun peut entendre de prendre sur soi, de dire « je peux en montrer un petit peu, parce que ma religion me l'oblige, soit parce que moi, je me sens mieux comme ça, avec une limite. » Alors, chez nous, ça pourrait être la kippa et les tzitzit, voilà, l'un des deux, préférentiellement la kippa qui est quand même moins visible, et ensuite, chacun dans sa religion pourra trouver une différence entre un port excessif dans un pays qui n'est pas historiquement considéré par une cette religion et un port modéré.
Ça, c'est un point de vue qui est typiquement adapté à l'exemple français et à sa conception de la laïcité. On a une presqu'île pourra nous en parler un petit peu plus longuement, mais par exemple, du côté anglo-saxon, donc en Angleterre ou aux États-Unis, on a un rapport très différent à l'affichage public, de religion extérieure. Presqu'île, tu peux nous en dire un petit peu plus.
Oui, alors justement, tu parles là d'un autre univers et je pense que la distinction, elle est au niveau d'une notion qu'on a déjà évoquée. On a beaucoup parlé de la gêne, ça veut dire le fait peut-être d'importuner, en tout cas, je ne sais pas si de déranger, mais d'intriguer quand on fait le choix de s'affirmer en extérieur avec un signe religieux, le terme ostentatoire est peut-être un peu excessif, mais en tout cas très visible et affirmé. Et justement, je pense que sans entrer dans les détails juridiques sur le modèle anglo-saxon, là effectivement, au niveau de l'expression religieuse, là-bas, on ne parle pas de laïcité, mais il y a l'idée que c'est une liberté fondamentale et que chacun est censé pouvoir l'exprimer comme il veut dans toute la largeur du phénomène. C'est absolument pas la conception qu'on a en France. Mais je pense que la grosse différence là-bas, c'est justement que cette notion de gêne, d'intriguer, elle ne se pose pas. Le fait d'enlever ou de mettre sa kippa, c'est souvent lié à des questions sécuritaires. C'est d'ailleurs très drôle parce que nous-mêmes, ça veut dire, quand on nous regarde physiquement, on porte la kippa, mais finalement, dans nos vêtements, etc., on est un peu monsieur tout le monde au niveau français dans la rue. Et quand tu vas en Angleterre, par exemple, ou à Anvers, que je connais un peu, tu vas avoir des juifs qui vont s'habiller de façon, on va dire, beaucoup plus traditionnelle, mais c'est pas forcément, en tout cas pas tout le temps, un marqueur d'une plus grande pratique religieuse. C'est juste qu'en fait, comme ils n'ont pas évolué dans des environnements où ça gênait, ils n'ont jamais vu l'intérêt concrètement d'abandonner ça. Et d'ailleurs, encore une fois, une petite anecdote, j'en ai beaucoup à vous raconter aujourd'hui. J'étais en Angleterre au Parlement anglais, il y a quelques années, et en fait, comme je sais que là-bas, c'est pas quelque chose qui est vécu comme une agression ou quelque chose d'ostentatoire, j'ai demandé à un moment à un gardien s'il y avait un lieu un petit peu isolé quoi, dans le bâtiment où je pouvais faire ma prière de l'après-midi. Le mec, il m'a regardé outré, il m'a dit « Mais monsieur, vous êtes en Angleterre, vous priez où vous voulez. » Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec cette conception ? J'ai mon petit avis sur la chose, mais on en reparle après.
Pour aller un peu dans ce sens, récemment, on a vu dans le sens sécuritaire, dans le sens qui n'est pas dérangé dans la conception anglo-saxonne, par l'expression de la religion, on a vu récemment des articles, alors, je ne sais pas si vous les avez vus passer, au Canada, avec des représentants de la communauté sikh qui se plaignaient et qui ont eu gain de cause de ne pas pouvoir se balader avec leur poignard traditionnel, notamment dans des écoles. Alors, nous, ça nous fait doucement rigoler, on dit un poignard, bon, évidemment qu'il y a des limites. Alors, chez eux aussi, ça a fait un petit peu un tollé, mais particulièrement parce que c'était, comme tu le pointes du doigt, la notion de sécurité qui a été mise en avant. Néanmoins, ça montre quand même une dérive de ce système. C'est-à-dire que dès lors qu'on dit, bon, chaque religion a tous les droits, au même titre, de la même manière, sans faire absolument aucun distinguo, bon, bah alors, personne n'est empêché demain, pour caricaturer un petit peu la chose, de lancer une nouvelle religion où la norme, c'est le port d'armes, et de se balader avec des armes comme il a envie.
Ça me va tout à fait, hein, personnellement.
J'imagine bien. Heureusement qu'on ne va pas la lancer.
Mais il y a eu historiquement des parodies un petit peu de religion, les pastafariens, qui justement moquaient un petit peu, les signes religieux extérieurs en portant une passoire sur la tête, en vénérant le monstre spaghetti géant. Donc c'est une critique un petit peu, mais qui n'a pas tellement sa place finalement dans notre système à nous, parce qu'on a fait une vraie différenciation entre les églises, la synagogue également, et l'État.
Ouais, bah à titre personnel, alors... Je pense pas que c'est le lieu et l'heure pour se prononcer sur ce qu'on pense chacun individuellement. Mais c'est vrai que Gil y pointait des dérives potentielles, en fait, d'une forme de liberté immodérée. J'aurais tendance à dire que je peux entendre des éléments des deux, en fait. Ça veut dire, en soi, c'est vrai qu'on l'a beaucoup évoqué, et ça rejoint même un truc que tu disais d'ailleurs, Gil. Le fait que, même si toi tu choisis de t'affirmer avec un signe visible, tu te sens pas forcément un représentant de la communauté en général. Finalement, tu rejoins là-dedans l'idée que tu as une liberté fondamentale de croire et d'exprimer cette croyance sans forcément t'inclure, voilà, ça veut dire dans un mouvement culturel, religieux ou politique. Finalement, ça emprunte pas mal à ce modèle anglo-saxon de penser comme ça. Mais en même temps, on a cette conception assez française de penser que la limitation dans un certain cadre, elle peut permettre peut-être un meilleur dialogue, quelque chose de plus raisonné et de traiter les choses de façon plus rationnelle. À titre personnel, j'aurais dit que ça existe, mais je pense aussi que dans le fait de dire aux gens « n'exprimez vos identités que dans le privé », ce serait une autre extrême qui en fait ne tient pas. Tu ne peux pas être toi-même que dans un cadre privé. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais personnellement, je pense que pouvoir exprimer pleinement qui on est, ce qu'on pense sur la scène publique, si on part du principe qu'on est en République, c'est quand même quelque chose de fondamental.
Donc effectivement, encore, ça dépend du ressenti de chacun et même, de manière plus large, de la culture et de la sphère dans laquelle on évolue de manière plus générale. Et je pense que c'est finalement un bon reflet de ce qu'a été l'évolution à travers l'histoire, justement, des signes distinctifs religieux chez les Juifs et en particulier de la kippa, qu'on pourra évoquer avec Reski tout à l'heure, juste après la courte pause.
Effectivement, merci de nous avoir écoutés pour cette première partie. Merci à nos intervenants, merci à Gil de s'être déplacé ce matin, de nous avoir fait cet honneur.
Avec plaisir.
Voilà. On espère te revoir bientôt et on vous retrouve juste après pour notre deuxième partie axée sur l'histoire et plein de trucs. Bribes. Il y aurait tant à en dire.
On va chercher un nazi avec des juifs. Quelle drôle d'idée.
Et pourquoi donc ?
Mais enfin, il va les reconnaître.
Comment ça ?
Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, le...
Je ne sais pas exactement quel type de juif fréquentait Hubert Bonisseur de la Batte, mais il y a évidemment un signe religieux qu'il a raté malheureusement, qui permet d'identifier beaucoup de juifs, en tout cas les plus pratiquants d'entre eux, dans l'espace public. Rebonjour mon cher Reski, on a beaucoup évoqué en première partie les signes extérieurs des membres de la communauté juive. On imagine mal un objet plus symbolique, un symbole plus fort que celui du port de la kippa. Pourtant, malgré sa grande présence vraiment visuelle, la kippa apparemment n'est pas une recommandation comme pourrait l'être beaucoup d'autres obligations dans le judaïsme. Est-ce qu'on a des sources, que ce soit du côté historique ou du côté religieux, qui permettent d'attester ça ?
Absolument David, et t'as très bien fait de poser cette distinction entre historique et religieux, parce que c'est deux pistes assez différentes qui vont nous amener vers des univers et des réponses assez variées. Alors, sur le plan historique, pour rester sur l'archéologie stricte, c'est pas seulement qu'on n'a pas énormément de sources, c'est que celles qu'on a tendent même plutôt vers le sens inverse. Quand on va sur les représentations antiques de ce que c'est qu'un juif à cette époque, il y a une constante qui s'affiche, et une constante qui d'ailleurs est aussi vraie dans le regard extérieur, c'est-à-dire celui qu'un peuple étranger va porter sur le juif que chez le juif lui-même. C'est-à-dire que par exemple, pour rester sur le point de vue interne, quand on prend un monument comme la synagogue de Doura Oropos en Syrie, on est sur la fin de l'Antiquité, c'est une synagogue qui est réputée magnifique, elle a des mosaïques qui représentent beaucoup de scènes du récit biblique et de la vie juive à l'époque, et les juifs tels que dépeints là-bas sont habillés à la mode grecque, qui à l'époque est la norme dans l'Empire, tête découverte. Et pour aller sur ce point de vue extérieur, un autre élément de preuve qu'on pourrait apporter, c'est la pièce de monnaie que l'empereur Titus va faire battre à l'époque de sa victoire contre les rebelles judéens, donc en 70, la destruction du deuxième temple qu'on commémore à Tisha B'Av. On y voit du coup un homme agenouillé en sanglots, enchaîné, avec l'inscription « Judea Capta », la Judée captive. Pourtant, il n'y a aucun signe distinctif chez cet homme, il est tête nue, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais ce qui le marque spécifiquement comme juif, c'est le fait qu'il soit adossé à un palmier. Le palmier qu'on retrouve par exemple dans la branche de l'Oulav, qui à l'époque est l'emblème national de la Judée.
Absolument, c'est aussi le palmier qu'on retrouve aujourd'hui sur les pièces modernes de 1 shekel, qui ont repris un petit peu ces codes. Mais là, on a fait un petit peu un tour d'horizon de ce qui est les représentations artistiques des juifs de l'époque, ou même parfois les instruments de pouvoir. Donc les pièces frappées par Titus, c'est une manière pour lui d'imposer son autorité sur le peuple qui vient de conquérir. Mais est-ce que à la même période, dans les textes religieux, donc on imagine qu'on va se tourner plutôt vers le Talmud, on a des références déjà depuis cette époque à cette coutume de se couvrir la tête? Est-ce que c'est aussi universel que ce qu'on a aujourd'hui dans la communauté où tout le monde a l'obligation de porter un couvre-chef?
Effectivement, les représentations artistiques, comme tu le dis, ça évoque une certaine vision du monde, un récit qu'on veut figer. Mais quand on va vers les textes religieux, on a effectivement des traces qui sont déjà beaucoup plus probantes. À savoir que, par exemple, dans le Talmud, on a dans certains extraits du Talmud des mentions d'un couvre-chef, mais qui ne sont pas encore généralisées. Par exemple, la plus connue, celle qu'on cite le plus souvent sur ce cas, c'est dans le traité Kiddushin. Donc dans le traité Kiddushin, on en parle par exemple d'un sage de l'époque qui ne faisait pas plus de arba amot, c'est-à-dire 4 coudées de distance en déplacement, sans se couvrir la tête. Alors, 4 coudées, vous pourrez le vérifier chez vous, pour un déplacement, ça fait pas très long. Donc c'est quelqu'un qui se couvre la tête en permanence. De même qu'on a un autre exemple, celui de Rav Nachman Bar Yitzhak, dont la mère lui recommande de se couvrir la tête à la façon des hommes sages et pieux. Du coup, on a déjà quelque chose qui commence à se dessiner. C'est une pratique qui existe certes, mais pas généralisée. Elle est très propre à une élite intellectuelle et spirituelle. Ça a l'air de distinguer justement un certain groupe, pas forcément une notion uniforme dans le texte. Et ça, c'est intéressant parce que des siècles plus tard, au Moyen-Âge, on retrouve chez Maïmonide, le Rambam, un grand sage séfarade de l'époque, une mention de la kippa, non pas comme une obligation, mais comme la voie, en fait, de l'homme sage de se couvrir la tête. C'est une forme de respect et une marque de dévotion à Dieu.
Absolument, tu as cité la mesure de 4 coudées, donc 2 mètres. C'est un terme qui est très employé dans les livres et dans la bibliographie juive pour désigner vraiment l'espace vital de l'homme. On dit que l'homme est enterré dans ses 4 coudées, dans ses 2 mètres, donc c'est vraiment l'espace le plus restreint dans lequel il vit sans encore se déplacer. Et c'est un terme qui est également repris dans les livres du Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge, c'est la période un petit peu dans le judaïsme, on a codifié les textes de loi. Et à cette époque-là, on a quand même une certaine disparité parce qu'on évoquait l'Antiquité. Avant la diaspora, avant les grands exils, les communautés juives étaient vraiment regroupées sur une aire géographique assez restreinte. Au Moyen-Âge, on arrive à une situation où on a 2 grands groupes qui se dégagent, les populations juives vivant dans les terres d'islam, et d'un autre côté, un peu plus proche de nous, les populations juives qui vivaient en terres chrétiennes, principalement en Europe. Est-ce que, sur le point de vue du port du couvre-chef, on a différentes traditions? Est-ce qu'on peut mesurer une certaine influence des lieux dans lesquels ils vivaient et des cultures desquelles ils étaient imprégnés malgré eux?
Alors oui, et c'est intéressant, et on va apporter une nuance à ce que tu viens de dire. Parce que dans le monde musulman, effectivement, la pratique de se couvrir la tête, c'est quelque chose qui a survécu à l'Antiquité, ça précède d'ailleurs l'islam, comme pratique justement de respect et de dévotion, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez les Perses, mais qui effectivement traverse les siècles au Moyen-Orient, et on voit que chez les Juifs, c'est quelque chose qui est adopté assez tôt. En fait, plutôt qu'adopté, on pourrait dire qu'au contact des populations locales, n'ayant plus eux-mêmes leur propre nation, ils adoptent simplement les us et coutumes des endroits où ils vivent. En l'occurrence, on peut parler de la soudra, c'est un turban plus resserré, moins large, ample. Un turban ample, c'est généralement un signe de noblesse, de faste, qui justement va distinguer l'homme sage et pieux. Tu as mentionné la sphère chrétienne comme quelque chose d'uni, c'est une image qu'on a souvent, mais en vérité, c'est beaucoup plus disparate que ce qu'on croit. Parce qu'effectivement, le Moyen-Âge européen, même s'il a des grands ensembles, il est souvent beaucoup plus divisé qu'on l'imagine, entre des principautés, des baronnies, etc. Et notamment, à cette époque, les juifs sont traités très différemment, en fait, en fonction des lois en vigueur dans le pays, des relations religieuses, des besoins économiques aussi, parce qu'ils ont un rôle assez particulier dans la société. Et au niveau du couvre-chef, on va d'abord avoir des horizons très différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des endroits où il n'y a aucune obligation imposée. De même qu'on va voir certaines communautés à travers l'Europe qui vont commencer à se couvrir par signes distinctifs, pour en fait avoir des signes de reconnaissance personnelle entre eux. Mais en parallèle, on va aussi avoir cette obligation de se couvrir la tête comme une imposition des pouvoirs publics parfois. Le terme pouvoir public est un peu anachronique, mais ça passera. Donc oui, c'est assez intéressant, parce que finalement, ça se fait progressivement, sur plusieurs siècles. Le Moyen-Âge, comme l'Antiquité, c'est une période très longue. Mais on en arrive à une situation où, par choix ou par imposition, on va avoir une majorité de juifs occidentaux qui vont se couvrir la tête. Et là, on arrive à un point très intéressant, au niveau de la religion. C'est ce qu'on appelle dans le judaïsme le principe de Minag Israël Kehalacha. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une loi qui n'est pas tranchée, parce qu'il faut quand même le savoir, le Talmud et la loi juive en général, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est des grands principes qui évoluent, qui s'adaptent avec le temps. Certaines choses ne sont pas destinées à être tranchées. Et donc, quand le peuple va commencer lui-même à adopter une certaine pratique qui va en fait trancher la question, on adopte à ce moment-là l'attitude qu'on dit « Minag Israël Kehalacha », l'usage d'Israël fait loi. Et donc, on se retrouve avec une majorité de juifs qui, pour différentes raisons, commencent à porter le couvre-chef en Europe. Ça s'uniformise et là, ça devient vraiment propre aux mœurs juives.
Alors effectivement, tu as évoqué plusieurs raisons qui poussent les juifs à se couvrir. On a encore aujourd'hui les preuves que dans le monde chrétien, par exemple, quand on entre dans un lieu de culte, on se découvre. Et donc déjà depuis le Moyen-Âge qu'on vient de citer, donc à un certain égard, parmi les différentes raisons qui poussent les juifs à se couvrir, il y a une obligation de porter un vêtement qui les différencie. On pense voilà, à la rouelle ou au chapeau qu'on retrouve encore dans les enluminures aujourd'hui qui ornent certains des livres qu'on a encore. Et qu'est-ce qui peut être la raison de cette appropriation de cette discrimination de l'extérieur de la part de la communauté juive elle-même?
Alors, comme on l'a un peu évoqué, il y a le fait de se distinguer, c'est-à-dire en fait d'avoir une forme de signe de reconnaissance, le moyen de rester en fait un peuple au milieu d'autres peuples concrètement. Mais pour autant, ça ne prend jamais la forme d'une obligation. Typiquement, on peut citer un très grand sage juif du Moyen-Âge, le Or Zarua, donc aux alentours du XIIIe siècle, qui mentionne le fait que spécifiquement, dans les communautés juives françaises, il constate que certains juifs, dans certains villages, certaines localités, pourront dire des bénédictions ou des textes sacrés, la tête découverte. Donc on constate que même s'il y a quelque chose d'identitaire qui naît à ce moment-là avec la kippa, ça n'est toujours pas vécu comme une obligation par une majorité de grands sages.
L'accumulation de tous ces éléments et ensuite la mise par écrit des coutumes, ça nous amène aux auteurs qu'on a déjà cités, comme le Shulchan Aruch qui est vraiment auteur du texte de référence de loi juive, vraiment le code civil des lois. Et est-ce que, donc à son époque, avec tous les commentateurs qu'il y a autour, est-ce qu'il y a déjà un consensus dès cette époque-là sur le fait qu'il faut absolument ou pas porter la kippa?
Alors on entre ici dans une optique qui va durer, peut-être même jusqu'à nos jours, mais qui en tout cas va être citée jusqu'au début du XXe siècle, à savoir une recommandation, mais pas une obligation. Typiquement, le Taz, c'est un autre grand sage, pour le coup pas du Moyen-Âge, mais du début de l'époque moderne. Il incite énormément les communautés juives à maintenir cet usage du couvre-chef pour son côté distinctif. Mais, encore une fois, on ne peut jamais lier ça à une obligation stricte dans le texte juif. C'est quelque chose qui va petit à petit s'imposer, mais on va le voir après, ça va aussi décroître à un moment.
Absolument, donc on a une évolution assez longue. On passe d'abord d'une coutume qui ne touche que les élites, puis une imposition, en tout cas dans les contrées européennes, puis finalement une réappropriation de cette coutume par les communautés. On a au XIXe siècle un mouvement assez important dans le judaïsme. Il s'est peut-être un peu moins développé en France que dans d'autres pays, mais je parle évidemment du mouvement de la Haskala, de l'émancipation. Quelle est, eux, leur position par rapport au couvre-chef qui n'est pas encore aussi répandu que ce qu'on connaît aujourd'hui?
Alors absolument, comme tu l'as dit, le mouvement de la Haskala, il prend forme à l'époque moderne. Effectivement, un peu moins en France, c'est surtout dans le monde germanique qui se développe. Et en l'occurrence, c'est souvent connoté à des époques d'émancipation, ou en tout cas de grands changements des mentalités, par exemple l'émergence de l'humanisme ou des choses comme ça. Les juifs ne sont pas imperméables à ces influences-là. Et effectivement, toutes ces idéologies d'émancipation, donc d'accès aux mêmes droits que les citoyens des pays dans lesquels ils ont élu résidence, imposent un bouleversement dans la façon de voir le monde. Et justement, à cette époque, dans ce mouvement-là, qu'on dit illuminer, le fait d'éclairer, le fait de retirer sa kippa, en fait, c'est le fait de se libérer d'une certaine forme de poids de la tradition. Et en fait, ça va déclencher quelque chose d'assez intéressant. Parce que, encore une fois, la kippa n'a jamais été posée comme une obligation, son port comme une obligation dans les communautés juives. Mais le fait de continuer de la porter, ça implique d'afficher un certain positionnement. Un refus, par exemple, d'aller vers l'évolution de certaines mentalités, une volonté de conserver certaines traditions, certaines coutumes qui sont en vigueur depuis très longtemps.
La kippa prend ses lettres de noblesse et son universalisation qu'on connaît aujourd'hui, principalement après-guerre. après la destruction d'une partie du judaïsme européen, en majorité d'Europe de l'Est, les écoles talmudiques et tout le monde juif se reforme dans certains pays européens, beaucoup aux États-Unis ou en Israël. Quelle est la place qui est réservée dans ces communautés-là et pourquoi est-ce que c'est ce mouvement-là qui ramène et qui place la kippa au centre presque de l'identité juive, en tout cas comme marqueur de la dite identité?
Alors, il y a énormément de facteurs qu'on pourrait citer pour répondre à ta question. Je pense qu'on va se concentrer sur quelques éléments, notamment le fait qu'on bascule, je crois, d'une façon générale, dans une époque, dans la deuxième moitié du XXe siècle, où les identités individuelles et religieuses s'affirment peut-être plus facilement, mais notamment, pour le cas spécifique du judaïsme, on est effectivement dans une période de reconstruction, après le traumatisme de la Shoah, qui s'accompagne aussi de la création de l'État d'Israël. En fait, être juif, on pourrait le dire à l'époque, c'est un peu dans le vent, concrètement. Et à ce moment-là, on n'a plus forcément peur de s'affirmer. En fait, la kippa devient vraiment une forme de marqueur identitaire qu'on affiche plutôt fièrement. Et c'est au point où même au sein de la communauté juive, on n'est plus seulement distingué par le fait de la porter ou de ne pas la porter, mais le fait de porter un certain type de kippa. Alors, disons que la science de l'étude des kippotes en Israël, c'est quelque chose de très grand. On pourrait dire que c'est un peu notre sapologie à nous, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est-à-dire, par exemple, toi et moi, David, on est assis face à face, on ne porte pas la même kippa, alors on ne va pas s'attarder sur ce que ça veut dire de nos différences, mais en tout cas, voilà, ça veut dire aujourd'hui, le fait d'afficher un certain type de couvre-chef, c'est le fait d'affirmer une identité, déjà une certaine perception de la religion, et parfois même une perception politique, en fait, de celle-ci.
Effectivement, donc la kippa passe à l'antiquité d'une pratique qui est réservée à certains, différentes étapes, donc le symbole prend différents sens jusqu'à devenir aujourd'hui à l'époque moderne presque une science comme tu l'as dit où dans ces différentes branches on peut identifier différentes choses sur le judaïsme que pratique la personne en question. Pour revenir un petit peu sur notre cas à nous, on connaît la France, une de ses grandes qualités héritées de la Révolution française c'est la laïcité. Et donc qu'en est-il finalement, je te demande ça au vu de ton expérience juridique, qu'en est-il du port de la kippa ou même de différents signes religieux dans la rue, dans l'espace public, etc.
Alors toi, comme on a fait du droit, on sait que les choses sont pas très simples à ce niveau-là. Techniquement, effectivement, il n'y a rien qui interdise de porter un signe religieux aujourd'hui dans la rue en France. En revanche, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs types de configurations. Par exemple, sans trop embrouiller nos auditeurs, on pourra parler du cas du service public. Est-ce qu'on y est un usager ou un employé? Ça change considérablement la marge de manœuvre de ce qu'on a le droit de faire dans le cadre de l'expression religieuse. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, effectivement, on est dans une position qui, paradoxalement, est peut-être très similaire à celle que le judaïsme a eue pendant des siècles, celle du ni interdit ni permis, concrètement. Et il y a une forme, on va pas dire de flou, parce que la loi encadre ce domaine, mais en tout cas, plusieurs choses sont possibles. Et aujourd'hui, ce sera un peu à l'appréciation de chacun. Aujourd'hui, justement, le fait de porter une kippa ou non, c'est le fait de marquer son identité juive d'une façon plus ou moins, le terme ostentatoire est un peu agressif, mais c'est celui qui convient le mieux, disons de façon plus ou moins marquée, et ça dit quelque chose de la personne. On est toujours dans cette logique d'une expression de l'identité, d'une forme de passeport religieux.
Absolument, pour conclure ce passage-là, aujourd'hui on a la chance de vivre encore dans des sociétés où on peut porter la kippa dans la rue, ça reste finalement au choix de chacun, que ce soit au niveau intellectuel, comment la personne considère la chose, ou au niveau légal et civil. Donc merci beaucoup Reski pour ces éclairages historiques et juridiques. Alors effectivement, aujourd'hui, le port de la kippa reste encore une fois, et heureusement, la liberté de chacun. On a le cadre juridique qu'on connaît, le cadre religieux qui, sans être obligatoire, laisse encore la liberté à chacun. Et aujourd'hui, on a la chance, nous, en France et à Strasbourg particulièrement, de vivre dans des sociétés où c'est absolument possible, comme on a pu l'évoquer en première partie. Mais la kippa aujourd'hui est encore considérée, pour certains, comme un marqueur du niveau de vie communautaire et religieux d'une certaine ville. La question parfois de certains touristes peut être est-ce qu'on peut porter la kippa sereinement dans la rue? Qu'en est-il? Donc c'est finalement un genre de baromètre de la vivacité d'une communauté dans nos villes.
Oui, le terme de baromètre, je pense qu'il est très bon. Parce qu'effectivement, la kippa, peu importe comment on se positionne, je crois que chacun est un peu conscient que le fait de pouvoir exprimer sa religion en tant que juif sur la place publique, c'est une forme de mesure, en fait, d'où en est la société vis-à-vis des questions qui vont concerner notre communauté. Et effectivement, je pense que même chez des juifs qui ne vont pas forcément afficher de façon visible cette appartenance, etc., la kippa, ça reste un symbole extrêmement important, au sens où elle mesure le degré de liberté religieuse et plus largement d'aisance qu'ont les juifs à vivre dans un certain pays. Donc en fait, on est sur un objet qui a traversé les âges avec des significations très différentes, mais qui reste justement un marqueur identitaire qui, à chaque époque, va trouver une signification différente. Je trouve que ça mène à une conclusion assez intéressante, parce qu'on constate que même si, effectivement, l'identité religieuse ou culturelle, elle est beaucoup régie par des textes, finalement, c'est l'usage et la tradition qui vont un peu façonner la vision du monde d'un peuple et aussi la vision qu'on aura de nous à l'avenir.
Merci beaucoup, Reski. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci à nos auditeurs, évidemment, et à Gil qui nous a fait l'honneur d'être présent. Et on espère se retrouver très bientôt pour d'autres émissions.